Voilà, on enlève.
Allez, on commence. Bon, aujourd'hui, un petit comité, hein.
Ouais, mais les meilleurs.
Ouais. Oui, on profite qu'on n'est pas beaucoup, c'est plus intime, on est plus proche les uns des autres.
Très intimiste.
Voilà, on est des intimistes. On a mis même la lumière. Ah, voilà. Mais bon, bonjour à tous.
Bonsoir.
Bonjour aux anciens. Aux anciens adhérents, hein, je veux dire. Bonjour. Bonjour aux nouveaux, voilà. Bonjour à la représentante de la Radio Mistral.
Radio Mistral, voilà. Fréquence Mistral.
Oui, qu'aujourd'hui est avec nous pour partager cette expérience. Bonjour à moi-même, qui est là depuis, oui, c'est bon pour pouvoir, voilà, aussi, un vieux adhérent de l'association. Et bien voilà, aujourd'hui, j'ai voulu travailler quelque chose, mais avant de vous présenter la chose, je voulais toucher le sujet de comment j'arrive à la chose. Parce que c'est quelque chose que je ne vous ai jamais dit. Pour apprendre l'histoire de l'activité, je voulais faire une petite histoire parce que c'est vrai que depuis un moment qu'on met en place les Miam Miam, non ? Ça va faire 4 ans, je disais. Après, non ?
Voilà. C'est 20 ans.
Je pense. Oui.
Et
j'ai
peur qu'on soit plus vieux encore que ça.
Encore ?
Ouais.
D'accord.
Tu étais là au début, toi ?
Mais quoi ? Mais c'est moi qui ai créé l'activité.
Hein. Ah d'accord.
Ah, ouais.
Mais je ne savais pas. Merci.
C'est l'idée originale d'Angelo Siminotti, c'est-à-dire que quand lui ne le fait pas, il y a le copyright à côté de Miam Miam, de Parma.
Oui, il y a toujours...
Le
voilà.
Copyright, c'est l'idée originale de...
Je marque la présence par mon absence, voilà.
Ça, c'est très fort, merci.
Ah, mais voilà. Mais voilà, et je voulais vous raconter un peu comment j'arrive justement à les sujets que je cherche à travailler et à découvrir, parce que je découvre avec vous. Hein. Moi, je ne suis pas ni une spécialiste, ni un anthropologue, je n'ai pas fait des formations, ni de rien du tout, hein. Mais c'est toujours cette curiosité qui m'amène à chercher, à fouiller un peu de partout pour pouvoir aller vers cette chose qui me fait bouger, que c'est justement les sociales, la société, la politique... Et tout ça qu'on retrouve, justement, dans l'acte de manger, dans la nourriture, dans l'alimentation. Et oui, après 4 ans, je disais à Marion ce matin, je disais, mais bon, c'est vrai qu'il arrive un moment que je me trouve sans sujet. Je lui ai dit, mais on a parlé de caca, on a parlé de maïs, on a parlé de pommes de terre, on a parlé de sucre, on a parlé de la Venezuela, de la Colombie,
de la patate,
la olla commune, on avait... Bon, c'est vrai qu'il y a plein de produits, des techniques encore que je ne connais pas, que je n'ai aucune idée. Mais c'est finalement toujours une chose qui m'amène à une autre. Et pour cette fois-ci, en parlant justement avec Sonia, je me disais, mais tu sais, on n'a jamais touché le sujet de la technique. De ça qu'on peut faire, transmettre par la nourriture. Là, je fais exprès d'amener à table 3 façons de voir les riz. 3 façons de s'approcher au monde, 3 façons de s'approcher à l'objet riz, qui n'est pas non plus un produit qui vient de l'Amérique latine.
Et oui.
On va dire, c'est un produit qui est arrivé en Amérique par les Espagnols, c'est un produit qui est arrivé en Espagne, en Europe, par les Arabes à la base, qui sont été en contact avec l'Asie. On va dire, les riz, ça vient à l'origine de l'Asie, qui a passé par le pays arabe, qui a passé par l'Espagne l'a mené en Amérique, et...
D'accord.
Ils sont découverts qu'en Amérique, on pouvait très bien faire pousser les riz.
Moi, ce que j'ai lu, c'est que ça venait par les esclaves africains.
Ça arrivait, mais oui, mais ils ne sont pas arrivés tout seuls, les esclaves.
Les Européens, ils comptent.
Oui, tout à fait.
Les esclaves, ils avaient.
Et c'est les... Oui, parce que j'ai lu ces textes-là, tout à fait. C'est par les esclaves qu'on a eu accès au riz, qu'on a travaillé avec ce savoir-faire qui s'amenait avec eux, les riz en Amérique. Après, justement, avec un produit, avec une technique et avec une façon de manger un aliment, il y a une histoire, il y a une culture, on va dire, il y a quelque chose derrière. Et aujourd'hui, justement, je prenais les produits, les riz, comme un prétexte pour pouvoir amener à la discussion les sujets de cette symbolique qu'on mange avec ça qu'on mange. Parce qu'une chose, c'est manger. L'acte de manger, c'est un acte social. C'est par l'acte de manger qu'on peut s'identifier les sous nos autres ou pas. On va dire c'est à partir de ça que je mange que j'arrive à voir chez l'autre quelque chose qui me parle et que je peux partager avec ou pas. Et en même temps que j'arrive à m'identifier avec cette chose-là, ça veut dire je vois face à moi quelqu'un qui partage mes valeurs, ma culture et mon approche au monde, il y a cette paradoxe parce que je reconnais la différence de l'autre. Ça veut dire que d'un côté où je cherche à me rassurer en cherchant quelque chose à laquelle m'attacher, m'identifier, un repère, je reconnais la différence de l'autre à laquelle je peux avoir une approche. Ça dépend, on va dire. On va voir justement à partir de tout ça comment chaque culture, chaque pays, en Amérique comme en Europe, on va dire, les Italiens, ils ne vont pas manger les riz comme les Espagnols. Et les Espagnols ne vont pas manger les riz comme les Japonais, en sachant qu'on reste toujours dans les mêmes produits. À côté de tout ça, il y a aussi les rituels qui s'installent. On va dire, il y a un rituel qui s'installe à côté de ça qu'on mange. C'est un produit spécifique d'une zone géographique qui répond à une réalité particulière à laquelle nous, on va s'adapter par différents moyens pour pouvoir justement arriver à s'identifier à cette chose-là. On voit dans les trois préparations que je vous propose aujourd'hui pour pouvoir donner un exemple, il y a les arroz con coco de la Colombie. C'est un plat typique de la zone costera pacifique caribe, où le coco il a une présence très importante. On a les riz congri, que c'est la façon traditionnelle de manger les riz à Cuba. Congri et pas moros y cristianos, parce que la différence c'est que moros y cristianos se mange avec les haricots noirs, là où les riz congri se mange avec les haricots rouges. Il y a cette particularité entre l'un et l'autre. Et après, on a les riz et sambito, que c'est la version péruvienne du riz au lait. Avec la différence que, à la place du sucre blanc ou de sucre blanc, on va utiliser la chancaca, que c'est le sucre de canne. Et aussi la différence avec les autres plats, que c'est un dessert. On va dire que c'est quelque chose qu'on va manger à la fin du repas. Les riz, cet objet qui fait lien aussi entre les cultures, c'est par laquelle on va chercher à mettre en place cette altérité, cette chose qui fait d'une culture quelque chose de propre, d'unique. Unique comme tous les autres, c'est paradoxal. Hein? C'est cette histoire de oui, je suis unique, mais comme tous les autres. Ça veut dire je suis unique et pareil. On se rencontre dans le fait qu'on est tous différents. Après, ça qui m'interpellait, pourquoi les riz, déjà la pomme de terre, c'est vrai que c'est un produit qui a bien fait le tour du monde. C'est un produit qu'on trouve très bien en France. Il a pu très bien s'adapter. Ça veut dire que les Français, il a bien pu transformer les produits pour s'identifier avec. Chose qui n'est pas arrivée avec les maïs, par exemple, qui n'a pas pris cette place, à différence de l'Italie. Dans le nord de l'Italie, les maïs, elle est passée pour la polenta pendant la guerre, et après la guerre, et encore aujourd'hui, ça a resté. On va dire. L'Italien, il s'identifie avec ces produits qui viennent d'ailleurs. Les Espagnols...
Les États-Unis aussi.
Les États-Unis, le oui, autrement.
Un petit peu.
Mais oui, 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 oui.
Ils mangent le maïs.
Les Espagnols, avec les riz, on va voir la paella. Et chaque région d'Espagne, en même temps, va voir sa propre paella à eux. On voit au Japon, bon, au Japon, la Chine, l'Asie, les riz, ça prend même la place du pain. Si on met un Chinois on met du pain à table, je ne pense pas qu'il comprenne trop qu'est-ce qu'on fait avec.
C'est presque le... On construit le plat... On mange dans les pays de l'Asie en général. Mmh. Autour du riz, on met le riz comme nous on va dire qu'est-ce qu'on mange. On va dire on va manger un pot-au-feu, on va manger un steak et des frites. Un pot-au-feu, on va l'accompagner d'un gratin dauphinois, d'autres choses. Enfin, Mais eux, ils disent, on va manger le riz et c'est le reste que l'on met autour qui s'ajoute. C'est le centre du plat. Mm. Je voulais dire une autre chose quand même sur la France, quand même. Mm. Une toute petite chose, mais c'est important quand même de le savoir. Parce qu'en dehors du riz qu'on importe, et très peu qu'on cultive, à part la Méditerranée,
une grosse production. La Camargue. Hein, le riz de la Camargue, oui.
La Camargue. Eh bien, il est arrivé parce que ce sont des gens de l'Asie du Sud-Est, de la Cochinchine, tout ça, qui sont venus comme travailleurs forcés. Mm. Ils ont travaillé dans les usines d'armement en France, au moment de quand il y avait les Français en Indochine, et ils ont travaillé notamment dans les usines ici à Sorgues, la SEPR. C'était très dangereux. Et l'autre endroit où ils ont travaillé, c'est en Camargue. Et au départ, le riz n'était pas un riz mangeable pour les hommes, c'était pour les animaux. Comme ils l'ont amélioré, c'était très dur leurs conditions à eux, ils l'ont amélioré et c'est devenu un riz, on a dit, mais